voyez, la dernière fois, je suis allée voir des carmélites, il y a un carmel au Caire. Ces carmélites, elles étaient en plein centre du Caire. Je les avais connues en 1995. Quand elles ont aménagé le carmel, le quartier était assez dégagé. Elles étaient tranquilles. Quelques temps après, 4 mosquées ont été construites autour du carmel. En 1995, la prieure, mère Céline, une égyptienne, elle m'a dit, ça m'a frappée, nous ne pouvons plus ni prier ni dormir à cause de l'appel incessant des muezzines, de la prière. Oui. Qu'est-ce qu'elles ont fait, les carmélites? Elles ont vendu leur carmel à l'église copte orthodoxe qui en a fait un centre d'accueil des personnes démunies. Très bien. Ça a gardé sa vocation religieuse. Et elles ont acheté un terrain à 100 km au sud du Caire, au Fayoum, dans une très très belle oasis, un endroit paradisiaque. Elles ont construit un très beau monastère. Quelques mois après, une mosquée a surgi de terre. Et ça fait plusieurs fois que je vais les voir dans ce nouveau monastère. Chaque fois, j'assiste à la messe là-bas, c'est à 11h, le vendredi. C'était chaque fois un vendredi, comme par hasard. Eh bien, quand le prêtre commence l'homélie, le muezzin appelle, c'est le vendredi à midi, l'heure de la prière, voyez, de la prière hebdomadaire. Et on n'entend plus rien. Voilà. Alors, c'est quand même très, très douloureux de vivre comme ça, sous la pression permanente, vous voyez, de l'islam qui s'affiche, qui occupe tout l'espace public. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore pour la dimitude? Les métiers, je vous l'ai dit. Normalement, dans un pays comme l'Égypte, il y a des provinces avec des gouverneurs. C'est l'équivalent des préfets, si vous voulez. Les postes de gouverneurs sont réservés aux musulmans. Il y a eu 2 exceptions. Au temps de Moubarak, il avait nommé un gouverneur chrétien à Kena, un gouverneur copte. Kena, c'est en Haute-Égypte, une grande ville où il y a beaucoup de chrétiens. Alors, je me rappelle, je suis allée là, dans la presse française, pardon. On a commencé à dire, voilà, un signe d'ouverture du président Moubarak, la situation des coptes s'améliore et tout ça. Je suis allée voir, j'ai demandé aux habitants, qu'est-ce que vous êtes heureux maintenant d'avoir un gouverneur chrétien? Ils m'ont dit, pas du tout, parce qu'en fait, le gouverneur chrétien vit sous la pression des musulmans. Il se croit obligé de ne pas donner, de ne pas rendre justice aux demandes légitimes des chrétiens et donc de faire de la surenchère pro-musulmane. Voyez ? Alors ils m'ont dit, nous préférons finalement un gouverneur musulman parce que parfois on arrive à s'entendre. Alors là, au printemps, après la révolution, on a nommé un nouveau gouverneur chrétien au même endroit, à Kena. Mais des intégristes ont bloqué les accès à la ville. Ils ont coupé la ligne de chemin de fer reliant le Caire au sud et qui passe par Kena. Ils ont donc fait ce blocus jusqu'à ce que le pouvoir revienne sur cette nomination. Et de fait, le pouvoir a cédé, la nomination a été gelée. Voilà, vous voyez comme c'est douloureux hein, de vivre dans cette situation. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de l'Égypte. En Syrie, la Syrie jusqu'à aujourd'hui, la situation des chrétiens est absolument comparable à celle des chrétiens en Irak au temps de Saddam Hussein. La Syrie est gouvernée par un membre de la communauté alaouite, je vous l'ai dit hier, une communauté minoritaire, considérée comme hérétique par le monde musulman sunnite. Et Bachar el-Assad et son père avant lui adhèrent à l'idéologie du Baas, cette idéologie laïcisante. Donc les chrétiens sont mieux traités en Syrie qu'en Égypte. Mais le principe là, de la proximité de l'église et de la mosquée est valable aussi en Syrie. Alors les chrétiens aujourd'hui, enfin pas tous, maintenant ça commence à changer à cause de la brutalité du régime, de la répression syrienne, mais beaucoup de chrétiens sont terrorisés par les perspectives d'avenir de ce fameux printemps arabe. Ils se disent que si le pouvoir de Bachar tombe, ils vont vivre la même situation qu'en Irak, où depuis 2003 c'est le chaos. Il y a un état central à Bagdad, mais qui est de pure forme. Et en fait, chaque ministre, ça je le tiens de gens qui vivent en Irak, chaque ministre a sa propre milice, sa propre justice, voyez. Comme je l'ai dit, la charia est la source unique du droit. Et depuis 2003, Les deux tiers des chrétiens d'Irak sont partis, ont émigré en Occident ou en Turquie, où ils attendent des cartes de séjour, des visas pour l'étranger. C'est la catastrophe totale, hein. Sans parler des violences. Vous savez qu'il y a eu un évêque et plusieurs prêtres qui ont été assassinés, des enlèvements, des choses terribles. On enlève des jeunes filles chrétiennes pour les convertir de force à l'islam. Enfin, parfois, il y a des gens... C'est vrai tout ça, hein. Des gens qui reçoivent une lettre dans leur boîte aux lettres, enfin un courrier dans leur boîte aux lettres, avec à l'intérieur une balle de fusil ou de revolver. Voilà ce qui vous attend si vous ne partez pas, si demain vous n'êtes pas parti. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces gens? Ils ont peur et ils s'en vont. Voilà. Alors la Syrie risque de tomber dans un chaos équivalent à ce qui se passe en Irak, oui.
Est-ce qu'en Irak il y a des changements par rapport à après les attentats du 31 octobre?
Ben non, c'est toujours pareil. Non, non. Non, la situation n'a rien changé. 31 décembre, non, ça c'est à Alexandrie. C'était le 31 octobre, oui. C'était 8 jours après le synode auquel j'ai participé à Rome. Justement, au synode, je voulais vous dire ça, ça tombe bien que vous posiez la question. Au synode, nous avons évoqué la question de la citoyenneté, de la laïcité, etc. pour les chrétiens. Notre synode s'intéressait à la situation des chrétiens, des catholiques bien sûr, mais aussi de tous les chrétiens. Alors comme on sait très bien que la laïcité est un concept non seulement inconnu mais très mal vu, ah j'ai oublié une chose, la laïcité du point de vue musulman c'est synonyme d'athéisme, de rejet de Dieu, de l'espace public. C'est comme ça qu'ils voient les pays occidentaux, hein, comme des pays athées qui ont rejeté Dieu. Alors quand on a commencé à travailler au synode, on avait les documents préparatoires, et moi parce que personnellement j'ai travaillé sur cette question-là. On disait dans les documents qu'il fallait promouvoir la laïcité de manière à ce que tout le monde soit traité à égalité. Bon, je me suis battue contre le mot, pas que je suis contre la laïcité, bien entendu, mais je suis contre la laïcité, le mot là-bas, parce que je sais très bien qu'il ne sera pas accepté. Finalement, j'ai eu gain de cause, hein. Dans les documents de la fin, on ne parle plus de laïcité, on parle de citoyenneté et d'égalité de tous, quelle que soit leur appartenance confessionnelle. Et alors, 8 jours après la fin du synode, le synode s'est terminé le 24 octobre, le 31, il y a eu l'attentat contre la cathédrale, enfin une des cathédrales de Bagdad. Je dis une des cathédrales parce que dans toutes les villes en Orient, il y a plusieurs cathédrales, étant donné qu'il y a plusieurs églises. Il peut y avoir des maronites, des grecs catholiques, des chaldéens, voyez. Bon. Là, c'était la cathédrale des Syriens catholiques. Vous lirez ça dans mon livre. Bon, alors, ça a été catastrophique. Hein. Deux prêtres ont été tués, deux jeunes prêtres ont été tués. Un autre très grièvement blessé, je l'ai revu à Paris après. Et puis des dizaines de morts, c'était au moment de la célébration de la messe. Voilà, alors nous nous sommes dit, enfin, à plusieurs qui avions participé au synode, voilà la réponse. Voilà, de ces pays à la demande de traitement équitable pour les citoyens chrétiens. Donc vous voyez, la Syrie maintenant est menacée de suivre le même scénario qu'en Irak. Alors je ne dis pas ça pour légitimer et pour justifier le maintien de ce régime qui est tombé dans des excès épouvantables, bien sûr. On dit qu'il y a eu 3500 morts depuis le début de la révolution, au début de cette année. Donc on ne peut pas moralement justifier le maintien de ce régime. Mais ce régime, comme celui de Saddam Hussein, étant minoritaire, s'appuyait sur les autres minorités et donc protégeait encore, d'une certaine mesure, les chrétiens, vous voyez. Donc les chrétiens en Syrie sont confrontés à un débat, un dilemme qu'on peut appeler de crucifiant. Que faire? Soit on s'accroche au pouvoir, mais si le pouvoir chute, les chrétiens risquent de subir des représailles de la part de la majorité sunnite, qui va considérer ces chrétiens comme des complices d'un régime honni. Et sinon, il va falloir se soumettre à la dimitude que risque d'imposer un pouvoir s'il tombe aux mains exclusives des sunnites. Et les sunnites, depuis pas mal de temps, rêvent d'une revanche historique. Ils rêvent d'en finir avec le régime alaouite de Damas. Moi, je suis allée plusieurs fois en Syrie, et à chaque fois que j'y vais, j'y suis allée, bon, maintenant, pas ces derniers temps, j'ai vu l'accroissement de la réislamisation de la société sunnite, notamment le développement important de niqab, le voile intégral, avec les gants aussi, on ne voit pas un brin de peau. Donc, si vous voulez, l'islamisme est interdit en Syrie, mais il a prospéré de manière souterraine par la société. Et c'est la même chose en Égypte. Les frères musulmans, au temps de Moubarak, étaient interdits de se présenter aux élections. Ils n'avaient pas le droit d'avoir un parti déclaré, mais ils ont travaillé pour augmenter leur influence à travers des œuvres sociales. Et comme malheureusement le régime de Moubarak ne faisait rien pour développer le peuple, les frères musulmans en ont profité, c'est eux qui ont créé tout ce qui était nécessaire pour aider les gens à vivre, et en même temps on achète des voix comme ça par l'influence, si vous voulez. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner que même s'il y a eu la révolution, les partis islamistes vont sans doute obtenir la majorité. En Égypte, c'est prévisible. Il va y avoir des élections législatives, donc pour le renouvellement du Parlement, le 28 novembre, c'est bientôt, hein. Vous suivrez ça, vous verrez. Alors, on peut comprendre que les Coptes en Égypte sont très, très inquiets. On dit, je ne l'ai pas vérifié ça, mais on dit que depuis le début de la Révolution, 100 000 Coptes ont quitté l'Égypte. En tout cas, je vous assure que j'étais là-bas en juin, juillet, c'est vraiment... La situation est vraiment très, très inquiétante. La violence anti-copte a atteint une recrudescence bien pire qu'avant sous Moubarak, où c'était déjà pas drôle du tout. Mais voyez les coptes. Excusez-moi, je vous raconte une petite histoire, mais elle est tellement belle. Quand j'étais en Égypte la dernière fois, je suis arrivée le 18 juin. Je suis restée 15 jours. Et j'étais logée à l'annonciature, parce que le nom, c'est un ami, tout simplement. Alors, bon, il est très gentil. Et il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire, tout ça. Ben, je lui dis, j'aimerais bien aller à Alexandrie voir l'église où il y a eu l'attentat du 31 décembre, en pleine nuit, après une messe célébrée pour passer d'une année à l'autre. Très très bien, on a passé deux jours à Alexandrie et on arrive dans cette église qui est très grande. Les églises coptes, elles, ce sont des genres de complexes. C'est pas des bâtiments, enfin, ça dépend lesquels. On en voit quelques-unes avec des grands clochers, mais il y en a d'autres qui sont des bâtiments avec des pièces annexes où on fait bien sûr le catéchisme, mais aussi des cafétérias, des salles de jeu, des bibliothèques, parce que les coptes, qui sont tellement maltraités, si vous voulez, qui souffrent, ils aiment se rassembler non seulement pour la messe, mais aussi pour d'autres activités. Vous voyez. Ça les aide à tenir. Alors donc, il y a ce complexe. L'église était au premier étage, on est monté, et en descendant, j'étais avec le nonce, donc on a vu une grande croix en bois, très haute. Apparemment, elle venait d'être terminée, elle n'était pas encore fixée dans son lieu définitif. Et alors, il y avait le montant horizontal avec une petite vitrine. Derrière la vitrine, il y avait des morceaux de vêtements ensanglantés des victimes, avec le nom de chacune sur les petits bouts de tissu. Et puis, dans la partie verticale, là, c'était magnifique, on a sculpté en arabe la phrase de Saint-Étienne, quand il allait être lapidé, qui disait à Dieu, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Vous voyez le pardon des chrétiens. C'est magnifique. Ça, c'est vraiment le martyr chrétien. Voilà. Bon, alors c'est une parenthèse.